d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Il est 17h30 temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 18 décembre 2018. Au sommaire ce soir, au Bénin, la Cour suprême est contre le retrait du droit de grève à certains fonctionnaires. Au Sénégal, le président ordonne la suspension des coupes de bois après le massacre de 14 personnes en Casamance. Au Tchad, le maire de N'Djamena est suspendu pour mauvaise gestion. Rencontre entre le président égyptien et le premier ministre éthiopien. Le barrage érigé par Addis Abeba sur le Nil Bleu inquiète beaucoup le Caire. Dans une dizaine de minutes, notre rendez-vous économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Bénin, la Cour constitutionnelle se prononce contre le retrait du droit de grève aux fonctionnaires. Longtemps attendu, la décision a été donnée ce jeudi suite au vote de la loi sur le retrait du droit de grève aux travailleurs des secteurs de la justice, de la santé et des forces de sécurité. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Les 7 sages de la Cour constitutionnelle viennent de déjouer tous les pronostics en se prononçant enfin sur la loi qui retire le droit de grève aux travailleurs et qui se retrouve sur leur table depuis le 2 décembre. La Cour pense qu'on ne saurait retirer le droit de grève aux travailleurs des corps cités, mais on pourrait l'encadrer pour empêcher les débordements fâcheux que ce genre de mouvement de débrayage occasionne souvent dans certains secteurs clés comme la santé où les gens perdent leur vie faute de soins. En votant cette loi, les députés pensaient faire preuve d'humanité en pensant à la population qui subit de plein fouet les affres des mouvements de grève sans service minimum. Il faut dire que depuis le vote de cette loi, l'administration publique est restée paralysée par une grève illimitée qui a pour but de forcer au retrait de cette loi qui, selon les travailleurs, est une véritable restriction des libertés. Le Conseil des ministres, mercredi, avait d'ailleurs pris acte de la situation sociale et décidé de suivre tout de près afin qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses. Avec cette décision de la Cour, les 4 sont à nouveau redistribués. Le dossier est retourné sur la table des députés pour examen. Pour le moment, pas de réaction dans le rang des travailleurs. Mettront-ils un terme au mouvement de grève illimité déclenché? Les jours à venir situeront les populations et le gouvernement. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall ordonne la suspension de toutes les autorisations de coupe de bois, alors que l'enquête sur le massacre de 14 personnes en Casamance se poursuit. Raissa Girondin.
Le président Macky Sall a donné instruction au gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les autorisations de coupe de bois et de procéder sans délai à la révision du code forestier. Cette décision radicale fait suite à l'arrestation dimanche de 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 personnes qui cherchaient du bois dans la forêt protégée de Bayotte près de Ziguinchor. Pour le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le massacre pourrait être lié à l'exploitation illicite du bois précieux. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer l'enquête pour mettre la main sur les auteurs de ces meurtres. Ouvert au dialogue et à la concertation, Macky Sall est pour un retour rapide de la paix en Casamance, en proie à une rébellion depuis 35 ans.
Dans le nord du Nigeria, les forces de sécurité ont été déployées pour tenter de retrouver les 2 Américains et les 2 Canadiens kidnappés mardi soir dans une embuscade. Les 4 expatriés étaient en route vers la capitale fédérale Abuja depuis Kafanchan, état de Kaduna, lorsque des hommes armés les ont enlevés après avoir tué leur escorte policière près de Djéré, sur l'axe Kaduna-Abuja où les enlèvements sont fréquents. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, convoqué comme témoin par la justice et interdit de quitter le territoire pour les besoins de l'enquête, a déposé une requête devant la cour d'appel de Libreville. Il juge légal d'avoir été empêché samedi de quitter le Gabon. Le premier juge d'instruction a pris une mesure d'interdiction de sortie du territoire national, manifestement illégal dans la mesure où il sait qu'une telle prérogative ne relève pas de sa compétence, affirme la requête envoyée à la cour d'appel de Libreville. Au Tchad, un comité d'action pour la libération d'un activiste tchadien emprisonné depuis 15 mois pour avoir critiqué le régime sur les réseaux sociaux a saisi la cour d'appel de N'Djamena, selon le porte-parole du comité Jean Bosco Manga. Ce comité veut obtenir la mise en liberté d'office Tadjedine Mahamat Babouri en raison de sa détention abusive. Et toujours au Tchad, malversation financière à la mairie de N'Djamena. la maire et deux de ses adjoints ont été suspendus. Les précisions avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Madame Mariam Djemé Ibet, maire titulaire, Atidjani Abdraman Nouren, maire premier adjoint, et Saleh Kouchi Zouglou, maire deuxième adjoint de la ville de N'Djamena, sont suspendus ce mercredi 17 janvier 2018 pour malversation financière sur instruction du chef de l'État Idriss Déby Itno peu avant son départ pour Paris. Selon le rapport de la mission de contrôle diligentée par l'inspection générale d'État dans cette institution en 2017, l'exécutif devrait être viré et poursuivi pour détournement des ressources financières de la mairie. Mais des sources concordantes indiquent que la mission aurait confisqué le dit rapport incriminant Mariam Djemé Ibet juste pour la maintenir à ce poste. Selon le personnel de la mairie de N'Djamena, si Madame le maire titulaire et le maire premier adjoint sont démis de leurs fonctions pour mauvaise gestion, Saleh Kouchi Zouglou, deuxième maire adjoint et lui, seraient impliqués dans la vente de certaines boutiques des grands marchés de la capitale aux grands commerçants. Entre-temps, des tractations commencent dans les coulisses. Qui des 30 conseillers va hériter la reine de cette commune? Toutefois, dominé par le MPS parti au pouvoir, le conseil pour la désignation du nouvel exécutif sera tenu que sur avis du président Idriss Déby Itno. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn ont affirmé au Caire leur volonté d'éviter un conflit autour du barrage érigé par l'Éthiopie sur le Nil Bleu. Ekiabadou.
C'est un signe clair pour nos peuples et le monde entier de notre volonté politique et la détermination à surmonter tous les obstacles, a assuré le président égyptien au premier ministre éthiopien en visite au Caire. Les deux hommes ont affiché leur volonté d'éviter un conflit sur la question de l'eau du Nil. Le Caire a toujours brandi les traités de 1929 et 1959 qui accordent près de 87% de l'eau du Nil à l'Égypte et au Soudan. Maintenant, l'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil bleu entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend pour son approvisionnement en eau. Le Caire, Khartoum et Addis Abeba ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord sur les conclusions d'un rapport technique de deux cabinets français sur les impacts sociaux et environnementaux de ce barrage. Le barrage de la Renaissance, situé sur le Nil Bleu, est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les parlementaires ont jusqu'à demain minuit pour trouver un accord sur le budget. Il y a de nombreux obstacles à surmonter pour éviter une paralysie de l'administration fédérale. On fait le point avec Anastasie Tudiech.
Les républicains majoritaires au Congrès veulent avoir un budget 2018 qui dope les dépenses militaires. Mais les démocrates souhaitent régler la question des près de 700 000 jeunes venus illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Les républicains sont globalement d'accord pour les régulariser en échange d'un vote de crédit pour ériger le mur promis par le président américain à la frontière avec le Mexique et d'autres mesures anti-immigration. Un vote pourrait avoir lieu ce jeudi à la Chambre, mais au Sénat, la minorité démocrate peut tout bloquer. C'est une course contre la montre qui est engagée pour trouver un compromis sur le budget d'ici à demain minuit. Avec des élections de mi-mandat prévues en novembre, les républicains sont conscients des dégâts politiques d'une mise en chômage technique de l'administration fédérale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Banque africaine de développement recommande à l'Afrique d'investir massivement dans ses infrastructures pour accélérer sa croissance économique. La BAD a identifié l'électricité, l'eau, les transports, la santé et l'éducation comme des besoins prioritaires. L'Afrique doit réunir annuellement entre 130 et 170 milliards de dollars pour s'industrialiser, éliminer la pauvreté et créer des emplois pour sa population active. En 2016, les investissements n'ont atteint que 62 milliards de dollars. L'Afrique de l'Est demeure la sous-région la plus dynamique. En Tunisie, les 30 milliards d'euros d'investissements promis en 2016 ne sont pas encore traduits par des projets tangibles. Le pays connaît une inflation continue. Les prix ont grimpé de 6% en 2017 sur fond de dépréciation de la monnaie et de hausse des impôts.
Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La Côte d'Ivoire en quête de rachat au Chan 2018.
Battu d'entrée de jeu par la Namibie 1-0, les éléphants locaux doivent à tout prix l'emporter pour rester dans la course à la qualification. Et ça tombe très mal à Marrakech puisque face à la Zambie à la mi-temps, les Ivoiriens sont menés 1-0. Ce qui serait donc un synonyme évidemment de disqualification, d'élimination. À 19h30 temps universel, la Namibie jouera face à l'Ouganda.
Le Maroc, lui, s'est qualifié hier pour les quarts de finale.
Face au Séli National de Guinée, les Lions de l'Atlas ont pu compter sur leur public au stade Mohamed V. Victoire 3-1. El Kaabi, auteur d'un triplé, Saïdouba Bissiri Camara avait réduit le score pour le Séli National. C'est évidemment une satisfaction pour les Marocains. Deuxième victoire en deux matchs et la qualification pour les quarts de finale. En revanche, on l'apprend ce jeudi, le sélectionneur de la Guinée, Lapé Bangoura, qui a été démis de ses fonctions, bien évidemment, après ses deux défaites lors du CHAN 2018, annonce de la Fédération Guinéenne de Football. A noter, Morgane, que l'an deuxième match de la soirée hier, la Mauritanie s'est inclinée face au Soudan, 1-0. Les Mourabitoun sont donc éliminés de ce tournoi, tout comme la Guinée. Déception du sélectionneur Corentin Martins.
Autant ce soir, je peux rien leur reprocher. On a essayé de jouer vers l'avant, de leur poser des problèmes aux Soudanais. On s'est créé beaucoup plus d'occasions que le Soudan, je pense, ce soir, sans être efficace. Et dans le football, il faut savoir justement trouver cette efficacité défensivement comme offensivement. Et nous, sur une erreur de notre part défensive, on prend ce but.
Voilà, c'était Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie. Demain, le Rwanda qui affronte la Guinée équatoriale et la Libye qui pourrait se qualifier dans le groupe C en cas de succès dans le choc face au Nigeria. On écoute tout de suite sur place Amine Birouk pour VOA Afrique.
Les Chevaliers de la Méditerranée sont à 90 minutes d'une qualification pour les quarts de finale du CHAN 2018. Pour atteindre cet objectif, les tenants du titre en 2014 devront battre à Tanger une sélection nigériane décevante lundi dernier devant le Rwanda. En effet, si les Libyens avaient disposé de la Guinée équatoriale 3-0, les Super Eagles s'étaient contentés d'un nul fat 0-0 devant de surprenants Rwandais. Ce résultat mi-figue mi-raisin oblige les Paulins de Salisu Youssouf à sortir le grand jeu. Un sélectionneur qui s'est engagé à présenter une formation plus compétitive ce vendredi à Tanger devant une Libye qui a pour point fort une bonne défense et une grande discipline tactique. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Cyclisme tropical à Missabongo.
Grosse étape hein, aujourd'hui sur les routes gabonaises entre Njolé et Nsidjik sur les 182 km avec ce parcours vallonné. Quatre coureurs ont formé l'échappée victorieuse du jour et c'est Joseph Areruya qui l'emporte au sprint. Areruya qui prend du même coup le maillot jaune. Areruya, c'est évidemment un coureur rwandais. L'ex-maillot jaune Brendan Jones a terminé 7e de l'étape à 7 minutes 42 du vainqueur.
Et enfin, championnat de basket nord-américain.
Golden State a enchaîné une 14e victoire consécutive à l'extérieur en s'imposant 119 à 112 à Chicago. Pour le retour sur le banc de son entraîneur Steve Clifford, arrêté pour raison de santé pendant 5 semaines, Charlotte a humilié Washington 133 à 109. On rappelle, Morgan, le match actuellement en cours au CHAN, la Côte d'Ivoire face à la Zambie. C'est la Zambie qui mène 1-0. Là, évidemment, Côte d'Ivoire qui serait éliminée en cas de deuxième défaite. L'autre information en provenance du Maroc ce soir, c'est bien évidemment l'entraîneur Lapé Bangoura qui est démis de ses fonctions après les deux premières défaites du Séli National de Guinée. On s'en souvient lors du match, évidemment, d'ouverture contre le Soudan et également contre le Maroc hier soir.
Merci Nicolas.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Où
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En RCA, la tension reste vive dans le quartier musulman du PK5. Les commerçants du secteur ont demandé aujourd'hui aux autorités de mettre hors d'état de nuire les groupes d'autodéfense. Réaction à l'incendie hier d'une quinzaine de boutiques par des hommes armés dans le Grand Marché et à une fusillade provoquant la mort, deux morts et une dizaine de blessés. Freeman Sipila.
En guise de protestation, la quasi-totalité des boutiques n'ont pas ouvert leurs portes ce jeudi dans le Grand Marché. Tous les commerçants se sont réunis à la mairie du 3e arrondissement pour prendre une décision ferme. Ils exigent le démantèlement de tous les groupes armés se réclamant autodéfense du secteur. Abdoul Salam, leur porte-parole.
Donc nous avons demandé, c'est-à-dire il faut traduire ces auteurs des crimes devant la justice, ce que les commerçants ont demandé. Et deuxièmement, les commerçants demandent aussi à la ministère et au gouvernement de ne plus voir ce qui dit le base pour les autodéfenses dans le PK5. Voilà ce qui a été dit. Il n'y aurait pas de groupe de défense dans le PK5, voilà. Dans les cas échéants, donc, nous allons mener une autre démarche plus approfondie que ça.
Les commerçants envisagent par ailleurs la cessation de toute activité ce vendredi pour insister sur leurs revendications. Décision saluée par Al Ghoni, conseiller à la mairie du 3e arrondissement.
Ceux-là, ce ne sont pas d'autodéfense, ce sont des bandits. Donc pour le déloger, c'est légal. C'est une décision légale. C'est une demande pour le commerçant, c'est une demande légale. Merci. Parce que nous avons vraiment demandé ça plusieurs fois, mais ça n'a pas été abouti.
Même à la mairie, on en a au poste 50 plaintes. C'est même le tribunal, la gendarmerie, tout ça là, contre ces bandits.
Au cours de la fusillade qui a éclaté mercredi suite à une bagarre, les hommes armés dits autodéfense du secteur ont brûlé près d'une vingtaine de boutiques. Un acte inhumain, déplore Bernadette Mboulou, députée du 3e 1. Elle appelle le gouvernement et la MINUSCA à prendre leurs responsabilités face à ces agissements.
Nous ne pouvons pas continuer dans ce sens, parce qu'on a trop souffert. C'est une histoire qui perdure depuis 5 ans. Et les fils de cette circonscription, ils en meurent presque tous les jours. Et je demande au gouvernement de vraiment écouter ce que je suis en train de dire, qu'il soit attentif, parce que c'est leur geste. Vous voyez, le kilomètre 5, c'est le poumon de l'économie, hein, du pays entier. Et le gouvernement, il sera obligé d'intervenir, parce que s'il n'intervient pas, et si ces gens-là qui ont tout perdu, s'ils n'exercent plus, c'est un manque à gagner.
Face aux agissements des groupes armés, certains habitants s'interrogent sur le rôle des casques bleus, qui pourtant sont les seuls autorisés à veiller sur ce secteur en plein cœur de la capitale. Cet habitant est indigné.
On a fait une sondage ici, on avait vu que tous les restes des arrondissements sont aux mains de l'État et nous avons vu qu'il y a la sécurité, il y a la paix, il n'y a pas ces heures de désordre. Mais notre arrondissement étant 10 dans la main des Nations Unies, nous voyons toujours de désordre. Nous soutenons ceci. Il faut que l'État vienne à notre soutien. L'État n'oublie pas que nous sommes aussi des Centrafricains.
Pour sa part, la MINUSCA affirme que des dispositions sont prises pour renforcer non seulement la sécurité dans le PK5, mais dans toute la ville de Bangui. Les pertes liées à l'incendie de magasins mercredi au PK5 sont estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Freeman Sipila, Bangui, VOA.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer, à votre avis, ce jeudi à 18h, temps universel sur VOA Afrique. Chers auditeurs, nous sollicitons votre point de vue sur la déforestation et son impact sur l'environnement. Que pensez-vous de l'exploitation et de l'utilisation du bois? Quelles sont les alternatives du bois de chauffage? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
En Côte d'Ivoire, les indemnités des députés pourraient bientôt être revues à la hausse, 500 000 francs CFA, ce qui n'est pas du goût de tous les Ivoiriens. Reportage de Georges Ibrahim Tunkara.
Dans les couloirs de l'hémicycle ivoirien, si certains députés se refusent à tout commentaire sur la question, d'autres en revanche, sous le couvert de l'anonymat, confirment l'information qui circule depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Oui, nous avons négocié avec l'exécutif une revalorisation de nos indemnités en vue de pouvoir faire face aux nombreuses sollicitations des populations, dit un député que nous avons rencontré. La mesure n'est pour l'instant pas effective, mais elle choque déjà de nombreux Ivoiriens.
Ils connaissent les besoins de la population et ils sont en train de se suquer le doigt en augmentant leur salaire. et ils regardent la population mourir. Donc je ne vois pas l'utilité de cette hausse des indemnités-là. Je ne vois pas l'utilité. En Côte d'Ivoire, les répartitions sont mal faites. C'est pourquoi nous souffrons tous.
Mais il faut qu'on tienne compte de la population elle-même. Puisque depuis un moment, jusqu'à ce matin encore, on nous dit que le riz a augmenté. Vraiment qu'on pense à la population, sinon vraiment c'est une petite déception.
Bon, on ne pense pas à la population, ils pensent à leur bien-être. Ça me déçoit un peu. Parce que la population, on ne mange pas à notre faim, tout est cher sur le marché. Et puis, ils pensent à leur augmentation. Pourtant, ils ne pensent même pas à la population.
Certains activistes de la société civile se disent également choqués par cette requête des députés. Innocent Yelbin, président de l'Initiative ivoirienne pour la démocratie et le développement.
Le problème de la population de Côte d'Ivoire, c'est que la qualité de vie des populations a baissé. Le problème, c'est la question de l'emploi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité en termes effectivement, donc, de santé, d'éducation. Et du pain en Côte d'Ivoire, c'est cela le véritable problème. En tant que député, en tant que représentant de la nation, ce qu'on attend d'eux, c'est d'aider, n'est-ce pas, à l'adoption de lois qui puissent permettre de faire régresser donc, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, de faire régresser le chômage en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on attend des députés de la nation. Mais on n'attend pas les députés de la nation qui disent que non, donnez-nous 500 000 francs pour que nous, on aille aider les gens ici et là. Quand on sait qu'aider les gens de cette manière ne peut pas résoudre fondamentalement le problème est mal posé.
Pour l'ancienne ministre et ancienne députée Danielle Bonny-Claveri, le moment de cette augmentation est simplement mal choisi.
Vraiment, le moment est inopportun. Parce que au même moment où les députés se donnent un salaire ou une indemnité avec une augmentation de 500 000 francs, ce sont les mêmes qui ont voté l'annexe fiscale qui, elle, augmente la TVA sur un très grand nombre de produits, ce qui va avoir pour conséquence une flambée des prix, une hausse du coût de la vie et en même temps un climat social qui va se durcir.
Le Parlement ivoirien compte 255 députés. Si cette augmentation de 500 000 francs est entérinée, chaque parlementaire touchera un peu plus de 2 600 000 francs CFA par mois comme traitement salarial. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Zoom sur le championnat d'Afrique des nations de football, plus connu comme le CHAN, la compétition qui se dispute au Maroc du 13 janvier au 4 février met en vedette des joueurs n'évoluant que dans des clubs africains. Quelle équipe a le plus de chances de décrocher le trophée 2018? Mais au fait, pourquoi le CHAN a été créé en 2009 par la Confédération africaine de football? Parvient-il à promouvoir et développer le foot africain? Les championnats locaux en tirent-ils profit? Et est-il temps de lancer un CHAN féminin? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Les habitants du Cap devront réduire de 40% leur consommation d'eau à compter du 1er février, a annoncé la maire de la deuxième ville d'Afrique du Sud. Une mesure drastique face à la pire sécheresse connue par la ville depuis un siècle. Le point avec Saloua Jafari.
C'est sur un ton résolu que la maire de Cape Town, Patricia de Lille, a annoncé les nouvelles mesures lors d'une conférence de presse.
À ce stade, nous devons supposer qu'ils ne changeront pas leur comportement. Les chances d'atteindre le jour zéro le 21 avril sont très vraisemblables. Nous ne pouvons plus demander aux gens d'arrêter de gaspiller l'eau. Nous devons les forcer à arrêter de gaspiller l'eau.
Si ces restrictions ne sont pas respectées et si la région n'enregistre pas de précipitations conséquentes, l'eau ne coulera plus au robinet à compter du 21 avril et la population sera contrainte de faire la queue à des points de distribution d'eau. À partir de février, les habitants devront donc limiter à 50 litres leur consommation quotidienne d'eau contre 87 actuellement. Pour les habitants de Cape Town, qui attirent plus de 2 millions de touristes par an, l'enjeu est de taille. Jeff Levy est propriétaire d'un hôtel.
Il y avait d'autres pays dans le monde qui ont prouvé qu'il y avait d'autres manières de faire face à la sécheresse. Ce qu'Israël a fait dans les deux heures en matière de désalinisation, l'Inde est aussi un pays qui s'en sort très bien.
Dans une station d'essai, les résidents remplissent leurs bouteilles d'eau. La pression est palpable.
Nous devons absolument faire notre part et utiliser le moins d'eau possible. Mais j'espère que le gouvernement fera quelque chose pour empêcher le jour zéro, car ce sera une crise nationale. Ce sera honnêtement horrible.
Nous ne pouvons plus nous baigner, nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas nous doucher. Et tous les deux jours, nous prenons une douche pour économiser de l'eau.
En moyenne, 15 litres d'eau sont consommés pour une douche d'une minute ou après avoir tiré la chasse d'eau. Le conseil municipal doit également approuver vendredi une augmentation des tarifs de l'eau pour les contrevenants. Depuis le début de 2016, la consommation d'eau du Cap a été réduite de presque la moitié, mais elle stagne désormais à environ 620 millions de litres par jour, soit 100 millions de litres au-dessus de l'objectif fixé par la municipalité. Toute l'Afrique australe a subi ces dernières années une très forte sécheresse aggravée par le phénomène météorologique cyclique El Niño. Mais de très fortes pluies ces derniers mois ont permis à l'essentiel de la région de refaire ses précieuses réserves d'eau.
Les autorités américaines mettent la pression sur les gouvernements africains pour qu'ils rompent leurs relations avec la Corée du Nord. Washington accuse Pyongyang d'utiliser les fonds obtenus de façon illégale pour menacer la sécurité des États-Unis et du monde. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le gouvernement américain, toute rentrée de fonds en Corée du Nord sert à faire avancer son programme nucléaire condamné par la communauté internationale. L'objectif de Washington est de couper les sources de revenus de Pyongyang par tous les moyens. La Corée du Nord a 8 représentations diplomatiques en Afrique et entretient des liens commerciaux avec 11 pays du continent. Marc Lambert, du Département d'État américain.
Nous voulons travailler avec vous pour envoyer deux messages clairs à la Corée du Nord. D'abord, que la communauté internationale est unie et qu'elle ne va jamais accepter que la Corée du Nord devienne une puissance nucléaire et qu'elle va exercer plus de pression jusqu'à ce que ce pays revienne à la table des négociations. Si la Corée du Nord revient à la table des négociations, nous pouvons l'aider à développer son économie pour améliorer les conditions de vie de ces populations.
Les autorités américaines reconnaissent que les relations entre la Corée du Nord et l'Afrique sont très limitées. La Chine et la Russie sont des partenaires beaucoup plus importants, mais Sandra Utkirk du service antiterrorisme au département d'État estime qu'il ne faut rien négliger.
Dans certains cas, les gens, qu'ils soient des fonctionnaires ou des analystes externes, vont regarder les chiffres et dire qu'ils sont vraiment insignifiants. Mais la réalité est que la Corée du Nord est, de façon quantitative et qualitative, très différente et de n'importe quelle autre menace que les États-Unis ont connue jusqu'ici. Il n'y a pas de montant trop petit pour être négligé. Tout est important.
Pour le chercheur Zachary Donnenfeld, certains pays africains entretiennent des relations avec la Corée du Nord qui a soutenu leur combat post-indépendance. M. Donnenfeld estime que l'administration Trump pourrait faire face à quelques résistances.
If the Trump administration is going to be successful in its efforts to ramp up sanctions, it will need.
L'administration Trump aura besoin du soutien des gouvernements africains. Avec les récents commentaires du président Trump sur l'Afrique, c'est devenu incertain. On ne sait pas si ces gouvernements seront prêts à abandonner des ressources naturelles et des armes bon marché pour faire plaisir à un pays qui les dénigre.
Avant cette toute dernière polémique sur des propos prêtés au président Trump, le Burkina Faso avait déjà annoncé publiquement avoir pris ses distances vis-à-vis de Pyongyang.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA Afrique.